Aristote, Physique. Traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire. Livre 4, chapitre 8. Sommaire. Théorie du vide. Il faut appliquer à cette étude la même méthode qu'à l'étude de l'espace. Examen sommaire des théories antérieures qui admettent ou qui repoussent l'existence du vide. Opinion d'Anaxagore, son expérience sur l'air pour démontrer le vide, Démocrite et Leucippe, Mélissus nie le vide et affirme l'immobilité de l'univers. Les pythagoriciens admettaient le vide qu'ils plaçaient primitivement dans les nombres. Paragraphe 1. Il semble que c'est par la même méthode employée pour l'espace que le physicien doit étudier le vide et savoir si le vide est ou n'est pas, comment il est et ce qu'il est, car on peut avoir sur le vide à peu près les mêmes doutes ou les mêmes convictions que sur l'espace, d'après les systèmes dont il a été l'objet. En effet, ceux qui croient au vide le représentent en général comme un certain espace et une sorte de vase et de récipient. On croit qu'il y a du plein quand ce récipient contient le corps qu'il est susceptible de recevoir, et quand il en est privé, il semble qu'il y a du vide. Donc on suppose que le vide, le plein et l'espace sont au fond la même chose, et qu'il n'y a entre eux qu'une simple différence de manière d'être. Paragraphe 2. Pour commencer cette recherche, il faut recueillir d'abord les arguments de ceux qui croient à l'existence du vide, puis ensuite les arguments de ceux qui nient l'existence du vide, et en troisième lieu, les opinions communément répandu sur ce sujet. Paragraphe 3. Ceux qui s'efforcent de prouver qu'il n'y a point de vide ont le tort de ne point attaquer précisément l'idée que les hommes se font généralement de ce qu'ils appellent le vide, mais les définitions erronées qu'ils en donnent. C'est ce que fait Anaxagore et ce qu'il imite dans son procédé de réfutation. Ainsi, il démontre fort bien l'existence de l'air et toute la puissance de l'air, en pressant des outres d'où ils le font sortir et en le recevant dans des clepsydres. Mais l'opinion vulgaire des hommes entend, en général, par le vide, un intervalle dans lequel il n'y a aucun corps perceptible au sens. Et comme on croit vulgairement aussi que tout ce qui existe a un corps, on dit que le vide est ce dans quoi il n'y a rien. Par suite, le vide n'est que ce qui est plein d'air. Mais ce dont il s'agit, ce n'est pas de démontrer que l'air est quelque chose, c'est de prouver qu'il n'existe point d'étendue, d'intervalle différent des corps, ni séparable d'eux, ni en acte, qui pénètre tout corps, quel qu'il soit, de telle sorte que le corps n'est plus continu, opinion que soutiennent Démocrite et Leucippe, et tant d'autres naturalistes. Et enfin, qu'il peut y avoir encore quelque chose comme le vide hors du corps entier qui reste continu. Ainsi, les philosophes dont je parle n'ont pas même posé le pied sur le seuil de la question. Paragraphe 4. Ceux qui affirment l'existence du vide se sont rapprochés davantage de la vérité. Un premier point qu'ils soutiennent, c'est que sans le vide, il n'y a pas de mouvement possible dans l'espace. Et par le mouvement dans l'espace, on entend ou le déplacement ou l'accroissement sur place, puisque le mouvement, s'il n'y avait point de vide, ne pourrait avoir lieu. Le plein, évidemment, ne peut rien admettre. Et s'il admettait quelque chose, et qu'il y eût alors deux corps dans un seul et même lieu, il n'y aurait pas de raison pour que tous les corps, quel qu'en fût le nombre, ne pussent s'y trouver en même temps, car on ne saurait indiquer ici une différence qui ferait que cette supposition cessât d'être admissible. Mais si cela est possible, le plus petit pourrait alors recevoir et contenir le plus grand, puisque la réunion de beaucoup de petites choses en forme une grande. Et par conséquent, si plusieurs choses égales peuvent être dans un seul et même lieu, plusieurs choses inégales pourront y être tout aussi bien. Paragraphe 5. C'est même en partant de ces principes que Mélissus prétend démontrer que l'univers est immobile. Pour que l'univers se meuve, dit-il, il faut nécessairement du vide, mais le vide ne compte pas parmi les êtres. Paragraphe 6. Ainsi, à l'aide de ces principes, ces philosophes démontrent d'une première façon l'existence du vide, mais ils la démontrent encore d'une autre manière, en observant qu'il y a des choses qui semblent se rapprocher et se contracter. Par exemple, disent-ils, les tonneaux contiennent le vin avec les outres, comme si le corps se condensait dans les vides qui se trouvent à son intérieur. Paragraphe 7. Dans un autre ordre de fait, il paraît bien que dans tous les êtres, le développement ne peut se faire qu'à la condition du vide, car les aliments que les êtres absorbent sont un corps, et il est impossible que deux corps soient ensemble dans un seul et même lieu. Paragraphe 8. Enfin, on donne encore pour preuve de l'existence du vide le phénomène de la cendre, qui reçoit autant d'eau que peut en contenir le vase où elle est quand il est vide. Paragraphe 9. Les pythagoriciens aussi soutenaient l'existence du vide. Et selon eux, c'est par l'action du souffle infini que le vide entre dans le ciel qui a une sorte de respiration. Dans leur théorie, le vide est ce qui limite les natures, comme si le vide était une sorte de séparation des corps qui se suivent et comme s'il était leur délimitation. À en croire les pythagoriciens, le vide se trouve primitivement dans les nombres, car c'est le vide qui détermine leur nature propre et abstraite. Paragraphe 10. Tel est à peu près l'ensemble de toutes les idées que l'on a émises, dans un sens ou dans l'autre, soit pour affirmer, soit pour nier l'existence du vide. Chapitre 9. Sommaire. Définition du mot de vide. Double sens qu'on donne à ce mot. Erreur de quelques philosophes qui ont confondu le vide et la matière. Paragraphe 1. Pour savoir, entre ces deux opinions, ce qu'il en est, il faut connaître d'abord ce que veut dire le mot lui-même. Paragraphe 2. En général, on entend par le vide un espace dans lequel il n'y a rien. Paragraphe 3. Cette idée vient de ce qu'on regarde toujours l'être comme un corps et que tout corps est dans un lieu, dans un espace. Par conséquent, le vide est l'espace où il n'y a aucun corps. Et s'il est un espace où il n'y a pas de corps, on dit que là, il y a le vide. D'autre part, on suppose que tout corps, quel qu'il soit, est tangible, et que c'est là une propriété de tout ce qui a pesanteur ou légèreté. En continuant ce raisonnement, on arrive donc à dire que le vide est ce dans quoi il n'y a rien, ni de pesant, ni de léger. telles sont les conséquences où le raisonnement conduit, ainsi que nous l'avons dit antérieurement. Paragraphe 4. Mais il serait absurde de prétendre que le point est le vide, puisqu'il faut que le vide soit l'espace où est l'étendue du corps tangible. Paragraphe 5. Ainsi, en un sens, vide semble vouloir dire ce qui n'est pas plein d'un corps sensible au toucher. Et sensible au toucher, c'est tout ce qui a ou légèreté ou pesanteur. Paragraphe 6. Aussi peut-on se demander ce que l'on penserait si l'étude avait ou une couleur ou un son. Croirait-on alors que c'est du vide ou que ce n'en est pas? Ou bien est-il clair qu'on dirait qu'il y a du vide si l'étendue pouvait recevoir un corps tangible et qu'on ne trouverait pas de vide si elle ne le pouvait pas? Paragraphe 7. En un autre sens, on entend par vide l'espace où il n'y a pas de choses distinctes ni aucune substance corporelle. Paragraphe 8. C'est là ce qui a fait que des philosophes ont soutenu que le vide est la matière des corps, et ce sont ceux qui ont confondu aussi bien à tort du reste l'espace avec la matière. Car la matière n'est pas séparable des corps, tandis qu'ils regardent toujours le vide qu'ils cherchent comme en en étant séparés. Chapitre 10. Essai de démonstration de l'existence du vide. L'idée du mouvement n'implique pas la nécessité du vide. Les corps peuvent se mouvoir et s'accroître sans qu'il y ait du vide, comme ils peuvent se condenser. Paragraphe 1. Après avoir étudié l'espace et démontré que le vide ne peut être que l'espace, s'il est ce qui est privé de corps, et après avoir expliqué également comment l'espace est et n'est pas, il doit être évident que dans ce sens, le vide n'existe pas non plus davantage. Ni inséparable, ni séparable des corps, puisque le vide n'est pas un corps, et qu'il est bien plutôt l'intervalle du corps. Aussi le vide ne semble-t-il être quelque chose de réel que parce que l'espace l'est aussi, et par les mêmes motifs. Car le mouvement dans l'espace est admis également, et par ceux qui soutiennent que l'espace est quelque chose de distinct des corps qui s'y meuvent, et par ceux qui soutiennent que le vide existe. On pense que le vide est la cause du mouvement en tant qu'il est l'endroit où le mouvement se passe. Et c'est là précisément le rôle que d'autres philosophes prêtent à l'espace. Paragraphe 2. Mais il n'est pas du tout nécessaire, parce que le mouvement existe, qu'il y ait aussi du vide. Et le vide ne peut pas du tout être pris pour la cause de toute espèce de mouvement, quel qu'il soit. Observation qui a échappé à Mélissus. Car le plein lui-même peut parfaitement changer par une simple altération. Paragraphe 3. Mais il n'est pas même besoin de vide pour le mouvement dans l'espace. Car il se peut fort bien aussi que les corps se remplacent réciproquement les uns les autres sans qu'il y ait un intervalle séparable et distinct des corps qui se meuvent. C'est ce qu'on peut très aisément voir dans les relations des corps solides et continus, aussi bien que dans celles des corps liquides. Paragraphe 4. Les corps peuvent même aussi se condenser sans que ce soit dans le vide, mais par cela seul que certaines parties qu'ils contiennent en sont expulsées, comme l'air s'échappe de l'eau quand on la presse. Paragraphe 5. De plus, les corps peuvent s'accroître non pas seulement par l'introduction de quelque chose d'étranger, mais aussi par une simple modification, comme par exemple l'eau devenant terre. Paragraphe 6. Mais absolument parlant, cette explication du vide, tirée de l'accroissement des corps et de l'eau versée dans la cendre, est contradictoire. En effet, l'on arrive à dire ou que toute partie du corps ne s'accroît pas, ou que rien ne s'accroît matériellement, ou que deux corps peuvent être dans le même lieu. Et alors on peut bien croire qu'on a résolu une objection vulgaire et commune, mais on n'a point pour cela démontré l'existence du vide. Ou bien, enfin, on arrive à dire que le corps est tout entier nécessairement vide, si l'on admet qu'il s'accroît de toutes parts, et qu'il s'accroît grâce au vide. Le même raisonnement s'appliquerait au phénomène de la cendre. Paragraphe 7. On voit donc qu'il est assez facile de réfuter les explications qu'on a données pour démontrer l'existence du vide. Chapitre 11. Sommaire. Le vide n'existe pas séparément des choses. Il n'est pas la cause du mouvement. Le vide empêcherait plutôt le mouvement. Exemple de la terre. Deux espèces du mouvement naturel ou forcé. Le vide n'explique ni l'un ni l'autre. Théorie de la marche des projectiles. Théorie de la chute des corps plus ou moins rapide, selon le poids du corps ou selon la résistance du milieu. Dans le vide, le mouvement serait infini ou indéterminé. Le vide ne peut avoir aucun rapport proportionnel avec le plein. Démonstrations diverses. Paragraphe 1. Répétons encore qu'il n'y a pas de vide séparément des choses, ainsi qu'on l'a parfois soutenu. Paragraphe 2. En effet, si pour chacun des corps simples, il y a une tendance naturelle qui les porte, par exemple le feu en haut et la terre en bas et vers le centre. Il est clair que le vide ne peut pas être cause de cette tendance. De quoi le vide sera-t-il donc cause? Puisqu'on paraissait croire qu'il est la cause du mouvement dans l'espace et que, en réalité, cependant, il ne l'est pas. Paragraphe 3. De plus, si le vide, quand on en admet l'existence, est quelque chose comme l'espace privé de corps, on peut demander dans quelle direction sera porté le corps qu'on y suppose placé. Certainement, ce corps ne peut être emporté dans toutes les parties du vide. C'est la même objection que contre ceux qui supposent que l'espace où se meut l'objet qui se déplace est quelque chose de séparé. Comment, en effet, le corps qu'on suppose dans le vide y serait-il mu? Comment y restera-t-il en place? Le même raisonnement qu'on appliquait au bas et au haut pour l'espace s'applique également au vide, et c'est avec toute raison puisque ceux qui soutiennent l'existence du vide en font de l'espace. Paragraphe 4. Mais alors comment la chose pourra-t-elle être soit dans l'espace, soit dans le vide? Il est impossible qu'elle soit dans l'un ou l'autre, quand on suppose que cette chose tout entière est placée dans l'espace qui forme un corps séparé et permanent, car la partie, à moins qu'elle ne soit isolée, sera non pas dans l'espace, mais dans le tout dont elle fait partie. Paragraphe 5. Ajoutez que si en ce sens il n'y a pas d'espace, il ne peut pas y avoir davantage de vide. Paragraphe 6. C'est d'ailleurs se tromper si étrangement de croire que le vide est nécessaire par cela même qu'on admet le mouvement, que ce serait bien plutôt le contraire. Et en y regardant de près, on pourrait dire que le mouvement n'est plus possible du moment qu'il y a du vide. Car de même qu'il y a des philosophes qui soutiennent que la Terre est en repos à cause de l'égalité de la pression, de même, il est nécessaire que tout soit en repos dans le vide. Car il n'y a pas dans le vide de lieu vers lequel le corps doive plus ou moins se mouvoir, puisque, en tant que vide, il ne présente plus aucune différence. Paragraphe 7. D'abord, on doit se rappeler que tout mouvement est ou forcé ou naturel. Et nécessairement, s'il y a un mouvement forcé, il faut aussi qu'il y ait un mouvement naturel. Le mouvement forcé est contre nature, et le mouvement contre nature ne vient qu'après le mouvement naturel. Par conséquent, si pour chacun des corps qui sont dans la nature, il n'y a pas de mouvement naturel, il ne peut pas y avoir non plus aucune autre espèce de mouvement. Mais comment pourra-t-il y avoir ici mouvement naturel puisqu'il n'y a plus aucune différence dans le vide et dans l'infini? Dans l'infini, il n'y a plus ni bas, ni haut, ni milieu. Et dans le vide, le bas ne diffère plus en rien du haut, car de même que le rien, le néant, ne peut présenter de différence, de même, il n'y en a point pour ce qui n'est point. Or, il semble que le vide est un non-être et qu'il est une privation plutôt que toute autre chose. Mais le mouvement naturel présente des différences, et par conséquent, les choses qui existent naturellement sont différentes entre elles. Ainsi donc, de deux choses l'une, où aucun corps n'aura une tendance naturelle vers aucun lieu, ou, si c'est cela, il n'y a pas de vide. Paragraphe 8. De plus, on peut observer que les projectiles continuent à se mouvoir sans que le moteur qui les a jetés continue à les toucher, soit à cause de la réaction environnante, comme on le dit parfois, soit par l'action de l'air qui, chassé, chasse à son tour en produisant un mouvement plus rapide que ne l'est la tendance naturelle du corps vers le lieu qui lui est propre. Mais dans le vide, rien de tout cela ne peut se passer, et nul corps ne peut y avoir un mouvement que si ce corps y est sans cesse soutenu et transporté comme le fardeau que porte un char. Paragraphe 9. Il serait encore bien impossible de dire pourquoi, dans le vide, un corps mis une fois en mouvement pourrait jamais s'arrêter quelque part. Pourquoi, en effet, s'arrêterait-il ici plutôt que là? Par conséquent, ou il restera nécessairement en repos, ou nécessairement, s'il est en mouvement, ce mouvement sera infini si quelque obstacle plus fort ne vient à l'empêcher. Paragraphe 10. Dans l'opinion de ces philosophes, il semble que le corps se meut vers le vide parce que l'air cède devant lui. Mais dans le vide, le même phénomène se produit dans tous les sens, de sorte que c'est aussi dans tous les sens, indifféremment, que le corps pourra s'y mouvoir. Paragraphe 11. Ce que nous disons ici peut s'éclaircir encore par les considérations suivantes. Évidemment, il y a deux causes possibles pour qu'un même poids, un même corps, reçoive un mouvement plus rapide. Ou c'est parce que le milieu qu'il traverse est différent, selon que ce corps se meut dans l'eau, dans la terre ou dans l'air. Ou c'est parce que le corps qui est en mouvement est différent lui-même, et que toute chose d'ailleurs restant égale, il a plus de pesanteur ou de légèreté. Paragraphe 12. Le milieu que le corps traverse est une cause d'empêchement la plus forte possible, quand ce milieu a un sens contraire, et ensuite quand ce milieu est immobile. Cette résistance est d'autant plus puissante que le milieu est moins facile à diviser, et il résiste d'autant plus qu'il est plus dense. Paragraphe 13. Soit un corps A, par exemple, traversant le milieu B dans le temps C, et traversant le milieu D, qui est plus ténu, dans le temps E. Si la longueur de B est égale à la longueur de D, le mouvement sera en proportion de la résistance du milieu. Supposons donc que B soit de l'eau, par exemple, et D de l'air. Autant l'air sera plus léger et plus incorporel que l'eau comparativement, autant A traversera plus vite que B. Évidemment, la première vitesse sera à la seconde vitesse dans le même rapport que l'air est à l'eau. Et si l'on suppose par exemple que l'air est deux fois plus léger, le corps traversera B en deux fois plus de temps que D, et le temps C sera double du temps E. Donc, toujours le mouvement du corps sera d'autant plus rapide que le milieu qu'il aura à traverser sera plus incorporel, moins résistant et plus aisé à diviser. Paragraphe 14. Mais il n'y a pas de proportion qui puisse servir à comparer le vide avec le corps, et à savoir de combien le corps le surpasse, de même que le rien, zéro, n'a point de proportion possible avec le nombre. En effet, si 4 surpasse 3 de 1, s'il surpasse 2 davantage, et s'il surpasse 1 et 2 davantage encore, il n'y a plus de proportion dans laquelle on puisse dire qu'il surpasse le rien, car nécessairement, la quantité qui surpasse une autre quantité se compose d'abord de la quantité dont elle surpasse l'autre, ensuite de la quantité même qu'elle surpasse. Et par conséquent, 4 sera et la quantité dont il surpasse et le rien. C'est là ce qui fait que la ligne ne peut pas surpasser le point, puisqu'elle n'est pas elle-même composée de points. Par la même raison aussi, le vide ne peut avoir aucun rapport proportionnel avec le plein. Par conséquent, le mouvement dans le vide n'en a pas davantage. Et si dans le milieu le plus léger possible, le corps franchit tel espace, en tant de temps, dans le vide, ce même mouvement dépassera toute proportion possible. Soit donc F, le vide, et d'une dimension égale à celle de B et de D. Si donc le corps A traverse le vide et le franchit dans un certain temps, G, supposé plus court que le temps E, ce sera là le rapport du vide au plein. Paragraphe 15. Mais dans ce même temps, G, le corps A, ne franchira de D que la portion H. Paragraphe 16. Le corps traversera le milieu F qui est beaucoup plus léger que l'air, avec une vitesse proportionnellement égale au rapport du temps E au temps G. Car si le vide F surpasse l'air en légèreté dans la proportion où le temps E surpasse le temps G, à l'inverse, le corps A, quand il est en mouvement, traversera le vide F avec une vitesse qui correspond précisément à G. Si donc il n'y a pas de corps dans F, A devra s'y mouvoir d'autant plus vite. Mais tout à l'heure, il traversait aussi H dans le temps G. Donc, le corps franchit la distance dans le même temps, soit dans le plein, soit dans le vide. Or, comme cela est de toute impossibilité, il est clair par suite que si l'on suppose un certain temps dans lequel un corps quelconque traverse le vide, on arrive à cette absurdité qu'un corps traverse indifféremment dans un même temps le plein ou le vide, car il y aura toujours un certain corps qu'on pourra supposer relativement à un autre corps dans le même rapport que le temps est au temps. Paragraphe 17. Afin de résumer cette discussion en peu de mots, nous dirons que la cause du résultat auquel nous aboutissons, c'est qu'il y a toujours un certain rapport d'un mouvement à un autre mouvement. Car le mouvement se passe dans le temps et il y a toujours un rapport possible d'un temps à un autre temps, l'un et l'autre étant également finis. Tandis qu'il n'y a aucun rapport possible du vide au plein. Telles sont les conséquences qu'amène la diversité des milieux traversés. Paragraphe 18. Voici celle qui résulte de la supériorité relative des corps qui se meuvent dans ces milieux. On peut remarquer d'abord que les corps animés d'une force plus grande, ou de pesanteur ou de légèreté, les conditions de forme restant d'ailleurs égales, parcourent plus rapidement une même étendue et la parcourent dans le rapport même où ces grandeurs sont entre elles. Par conséquent, ils la parcourraient aussi dans le vide. En effet, quelle cause pourrait accélérer le mouvement? Dans le plein, c'est une nécessité que le mouvement s'accélère, puisque le plus fort des deux mobiles divise plus rapidement aussi le milieu par sa force même. Car le corps qui tombe ou qui est lancé divise ce milieu soit par sa forme, soit par l'impulsion qu'il possède. Donc, tous les corps auraient dans le vide la même vitesse et ce n'est pas admissible. Paragraphe 19. Ce que nous venons de dire doit montrer que l'existence du vide, en admettant qu'il existe, entraîne des conséquences tout à fait contraires à ce qu'attendaient ceux qui bâtissent ce système. Ils s'imaginent, parce qu'il y a du mouvement dans l'espace, que le vide doit exister séparé et en soi. Mais cela revient à dire que l'espace doit être aussi quelque chose de séparé des corps. Et nous avons démontré antérieurement que cela n'est pas possible.